Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Booster, la troisième saison de Sillage, le podcast des Écostarts. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux Écostarts et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
Je vous rappelle le concept de cette saison, même si vous êtes de plus en plus nombreux à le connaître. On organise une rencontre entre une étudiante ou une jeune diplômée et une femme qui mène une belle carrière, que ce soit dans l'entreprise, la politique ou le sport. La jeune femme lui pose toutes les questions qui lui passent par la tête sur sa propre carrière, sur la place de la femme dans l'entreprise ou dans la société. En gros, comment on fait pour réussir quand on est une femme? Si ce thème du mentorat féminin vous intéresse, vous pourrez retrouver un nouvel épisode toutes les deux semaines.
Aujourd'hui, dans le fauteuil de la femme inspirante, nous recevons Roxane Varza. Roxane, vous êtes la patronne de Station F, l'un des plus grands campus de start-up au monde, installé à Paris. Vos parents sont iraniens et vous avez grandi aux États-Unis. Vous êtes diplômée de UCLA depuis 2006 et depuis une dizaine d'années, vous vivez en France.
Vous avez été tour à tour blogueuse, journaliste pour des sites spécialisés sur les nouvelles technologies. Vous avez travaillé chez Microsoft, puis vous avez rencontré Xavier Niel avec qui ça a matché et vous avez décroché la direction de Station F. Tout ce beau parcours alors que vous avez seulement 34 ans, un parcours qui a intéressé notre étudiante Léa. Bonjour Léa.
Bonjour.
Léa, vous avez 21 ans, vous êtes en troisième année d'école d'ingénieur à l'ESILV, en double diplôme avec une école de management. Vous voulez vous spécialiser dans l'informatique et le big data. Vous avez organisé une conférence TEDx au sein de votre pôle universitaire. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Oui, alors j'ai organisé une conférence TEDx au sein de mon pôle avec des étudiants des trois écoles en fait, qui sont dans cet établissement. Donc une école d'ingénieurs, une école de commerce et une école de multimédia. On a organisé cette conférence le 18 février qui s'appelait TEDx Pulv au nom du coup de l'école. Et elle était sur le thème « Limitless » et sept speakers sont intervenus pour nous raconter leur histoire autour de ce thème.
Merci Léa. Maintenant, Amélie et moi, on te laisse les clés du micro. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à Roxane Varza.
Bonjour Roxane.
Bonjour.
Alors déjà, j'ai une première question parce que compte tenu de ton parcours, je voulais savoir ce qui t'avait amené dans les technologies.
Les technologies, c'était un peu par hasard, parce qu'à la base, je n'étais pas vraiment intéressée par les technologies. Même si j'ai grandi à Palo Alto, on était toujours entourés par les startups. En fait, moi, j'étais passionnée par la France. Et c'était toujours mon rêve de vouloir venir vivre ici. Je n'arrive pas à l'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Mon premier job en sortant de l'école aux États-Unis, c'était de travailler chez Business France. J'accompagnais des startups de la Silicon Valley, du coup, mais un peu par hasard, qui voulaient s'implanter en France. Et du coup, j'ai découvert le milieu des startups et des nouvelles technologies via l'amour que j'avais pour la France.
D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Je n'imaginais pas du tout que ça se serait passé comme ça. Tout cet amour pour la France, est-ce que c'est né de vos influences? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a transmis tout ça? Est-ce que...
Je pense en fait, déjà mes parents, ils sont iraniens. Et l'Iran est en fait un pays qui est assez francophile, même si on n'imagine pas forcément. Ma mère, elle avait fait un lycée français en Iran. Donc on avait des livres de français dans la maison et je pense aux US tout le monde veut forcément faire espagnol à l'école et moi je voulais faire quelque chose de différent donc j'ai vu un peu les inspirations de français autour de moi et j'ai dit je vais tenter et au fur et à mesure j'ai dit en fait c'est un pays qui est incroyable, j'ai envie d'aller vivre là-bas.
Ouais, c'est super. Et donc après vous êtes venu faire des études en France, c'est ça? Ou vous avez décroché un premier job?
Non, j'ai fait d'abord un échange à Bordeaux et après j'ai passé 2-3 ans à San Francisco où j'ai travaillé un peu. Et après, j'ai décidé de venir faire un master ici et je ne suis pas rentrée depuis.
Donc, tu es arrivée en France et tu es restée ici depuis et tu es maintenant à la tête du plus grand campus de start-up du monde. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es démarquée ?
En toute transparence, je ne sais pas trop. Donc moi, j'avais rencontré Xavier Niel un événement quand j'étais blogueuse chez TechCrunch. On était restés en contact. Quand il a commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un grand bâtiment, avec une start-up, j'imaginais jamais qu'il allait me proposer la direction de ce projet. Mais ça s'est fait vraiment très, très naturellement, sans entretien, sans envoi de CV. C'était juste, voilà, on discutait, c'était une discussion. Et puis, elle m'a dit, bah, si ça t'intéresse, tu peux le faire.
Voilà. C'est impressionnant.
Pour moi
donc,
aussi.
Donc, en fait, il n'y a eu aucune démarche trop professionnelle dans les codes, etc.
Non, mais je pense que là où j'ai bien aimé sa façon de démarrer un peu la discussion, c'était en fait, il me posait vraiment des questions sur... En fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace? Quelles sont ses idées? En fait, on a, entre guillemets, commencé à travailler ensemble sans que je sache. Et en fait, j'avais rencontré déjà des architectes. Et à ce moment-là, il m'a dit, bah, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce projet? Maintenant, tu vois vraiment de quoi il s'agit. Et la discussion est allée vers la direction, quoi.
Oh, c'est génial. Et alors, maintenant, donc à Station F, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu gères? Quelle pourrait être une journée type?
Donc en fait, ça a beaucoup changé avec le projet parce que quand j'ai commencé, j'étais toute seule et il y avait tout à créer. Donc on était vraiment dans la conception, on imaginait plein de choses. Aujourd'hui, le campus est ouvert, on a tous nos clients qui sont sur place avec nous tous les jours. On a une équipe de 30 personnes, donc ça a vraiment, vraiment changé depuis le début. Je pense que mon temps se divise en trois choses. Un tiers de mon temps, c'est consacré vraiment à l'équipe, au management, le recrutement, ce genre de choses, la préparation du roadmap et vraiment vérifier que tout le monde comprend les ambitions, les projets, les objectifs. Un tiers de mon temps, c'est forcément consacré aux problèmes du bâtiment parce qu'il y en a parfois. Et un tiers de mon temps, c'est plus l'animation de la communauté Station F, les différents programmes, les partenaires, les événements, ce genre de choses.
Ok. Alors, j'ai trouvé un chiffre dans un article des Échos qui disait en 2016 que la proportion des femmes dans la tech est inférieure à 15%. Alors, comment est-ce que tu peux expliquer ça et qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que ce chiffre augmente?
Ouais, ça, c'est un sujet qui m'impacte beaucoup. J'ai monté un réseau il y a à peu près 10 ans qui s'appelle maintenant Starter pour justement promouvoir l'entrepreneuriat au féminin parce qu'on est évidemment minoritaire dans ce secteur. En revanche, je pense que 15%, ça part vraiment du milieu tech. Si on regarde les femmes qui créent des entreprises ou qui sont entrepreneurs, je pense que le chiffre est un peu plus haut. Je pense qu'on est autour de 30%. Et quand on parle vraiment de métiers techniques, je pense que le chiffre, il est plus bas, autour de 10%, j'imagine que tu le sais. Et pour moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Nous, on croit beaucoup au rôle modèle à Station F et avec Starter. Donc, de montrer des femmes qui créent quelque chose, qui mènent un projet, qui sont fondatrices de quelque chose, bah, ça peut inspirer d'autres générations qui ne pensaient pas que c'était possible. Donc, nous, on essaie de faire beaucoup de mise en avant des profils inspirants. Et l'autre chose qu'on essaie de faire aussi maintenant, c'est de regarder beaucoup plus les jeunes. Les étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, pour les inspirer dans les technologies. Et parfois, on croit que la façon que la technologie est présentée à l'école, les sujets qui sont enseignés, c'est peut-être pas, on montre pas à quel point c'est un métier créatif. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire qu'on ne fait pas encore, mais c'est ces deux sujets que je vois pour changer un peu les choses.
Ok. Moi, dans mon école, on fonctionne beaucoup par la méthodologie par projet, c'est-à-dire que tous les ans, je suis amenée à faire un, deux, voire trois projets. Et par exemple, cette année, j'ai un projet avec lequel on a intégré en fait un concours. Et donc, en fait, ça, en deux mots, c'est la dématérialisation du ticket de caisse dans les centres commerciaux. Et donc, en fait, en faisant beaucoup de recherches, on a fait voilà, un business model, un planning prévisionnel, une analyse fonctionnelle, un cahier des charges, on a fait plein de choses. Et on se dit, mais et pourquoi pas se lancer? Mais en même temps, on est étudiant, donc il me reste 2 ans d'études. Il faudrait plutôt que je finisse mes études, plutôt que de me lancer. Comment est-ce qu'on gère ça avec les étudiants?
C'est un truc qui m'a toujours vraiment, pas choquée en France, mais un truc que j'ai jamais vraiment compris. Aux États-Unis, tout le monde fait plein de choses en parallèle de ses études. C'est presque normal d'avoir un travail ou d'avoir, j'ai pas envie de dire d'avoir une start-up ou une boîte, mais c'est pas impossible. Et ici, j'ai l'impression que les gens disent, bah, en fait, je suis étudiant, il faut que je fasse que ça. Donc, pour moi, c'est pas du tout incompatible. Je pense que c'est même très bien de lancer un projet quand on est étudiant, parce que si jamais ça marche pas, entre guillemets, on s'en fout. donc, je pense que le risque, il est très bas et tu vas beaucoup, beaucoup apprendre si tu le fais.
Et vous, vous encouragez des étudiants à Station F pour faire ce genre de projet ?
Ah oui, complètement. Moi, je pense soit monter une start-up ou juste avoir un projet, un side project à ses études. Ça peut vraiment avoir un impact sur son CV aussi quand on cherche un premier job. C'est ce que moi, j'ai fait aussi quand j'étais en train de faire mon master en France. J'étais étudiante à Sciences Po. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon blog et j'ai travaillé pour TechCrunch en parallèle de mon master. Et les gens, parfois, ils ne le savent pas. Mais en fait, à la limite, je n'allais pas trop en cours. Et je me consacrais beaucoup plus à TechCrunch parce que je pensais pour ma carrière, à la limite, c'était ça qui était plus important.
Ok. Alors, pour revenir du coup sur la station F, j'aimerais en savoir plus sur les critères d'admissibilité. Comment est-ce que vous sélectionnez en fait les projets qui sont à la station F? Qu'est-ce que vous offrez en fait à toutes ces personnes? Est-ce que vous leur offrez à tous la même chose?
Donc, station F est un campus avec 30 programmes différents. Donc, il y a 28 qui sont gérés par nos partenaires. Ça peut être des grands groupes comme Microsoft, comme Facebook, comme Thales, ou ça peut être des écoles comme HEC, INSEAD, ils ont des programmes sur place, ou même des organisations start-up. On a par exemple le programme de Entrepreneur First basé dans les locaux de Station F. Mon équipe gère deux programmes. Donc, je peux parler beaucoup de comment on sélectionne les start-up pour ces deux programmes parce que nous, on a défini les critères et on reçoit les start-up. Donc, par exemple, pour le Founders Programme, c'est le plus grand programme sur le campus, à peu près 200 boîtes. On cherche des start-up early stage qui viennent de n'importe quel pays, n'importe quel secteur. Mais quand la start-up postule pour ce programme, il faut être à temps plein sur le projet. Donc, ce n'est plus un side project. Il faut vraiment être 100% dédié à sa boîte. Il faut, la plupart du temps, des compétences tech dans l'équipe. Donc, on ne veut pas voir qu'il y a une boîte, je ne sais pas où, qui fait la partie tech parce que c'est un élément très, très important pour la boîte la plupart du temps. Il faut avoir un MVP ou un prototype. Donc, on ne veut pas voir que c'est toujours un stade d'idéation. Il n'y a rien qui a été fait. Et on veut voir des premiers... preuve de concept, donc soit des téléchargements, un peu d'usage, des clients, ce genre de choses. Une fois que mon équipe a validé tout ça, souvent on arrive à quand même beaucoup de boîtes pour le nombre de places qu'on a. Donc on se base sur un réseau de 100 entrepreneurs dans les pays différents avec un certain niveau d'expérience et c'est eux qui vont faire la sélection des boîtes qui viennent à Station F. Donc c'est des entrepreneurs qui nous disent « ça c'est une idée que j'ai vue 100 fois, c'est pas très intéressant de voir une énième boîte qui fait ça » ou « ça c'est un modèle auquel je crois vraiment ». Donc voilà, c'est un système qui est partagé, mais on essaye de faire des choses où tout ce qu'on propose à Station F est validé par d'autres entrepreneurs. Donc ça c'est la façon qu'on sélectionne des boîtes et c'est un peu le même concept, la même philosophie pour l'ensemble des services et des outils qu'on propose à Station F. Le Founders Programme en fait c'est basé sur un modèle de peer-to-peer. Donc en fait c'est toutes les startups qui vont se partager des contacts, des ressources, des best practices. Et pareil pour les ressources. En fait on ne propose pas une ressource à Station F sans que ça soit validé par d'autres startups qui l'ont déjà utilisé. Okay. Voilà.
Bon, super. Bon, j'ai des questions maintenant un peu plus ciblées. Par exemple, qu'est-ce que tu souhaitais faire à mon âge ?
À ton âge, je souhaitais venir en France. Je pense que c'était quand je venais de commencer chez Business France à San Francisco. Je me rappelle, en fait, moi, j'ai fait une licence en littérature française. Je ne savais absolument pas ce qu'on pouvait faire avec une licence en littérature française aux États-Unis, ni en France d'ailleurs. Mais je me disais, je peux dire à mon père, pour qu'il ne me pose pas de questions, que je vais être journaliste. Et finalement, j'étais blogueuse. Je pense que c'était un peu la même chose. Voilà.
Ok. Mais du coup, finalement, j'ai l'impression que tu as quand même multiplié les expériences avant d'être... à la tête de Station F, c'est-à-dire que par les études et tous les projets que tu as menés autour, finalement, c'est peut-être ça justement qui a tapé dans l'œil de Xavier Niel et il s'est dit « cette fille, elle a de l'expérience et elle a vraiment quelque chose ».
Bah, je ne peux pas parler à la place de Xavier, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais... Non, je pense franchement, je suis passionnée par les startups. J'adore être entourée d'entrepreneurs. Je trouve que c'est des gens vraiment créatifs, passionnés, optimistes. Enfin, il y a un optimisme dans ce milieu que je trouve juste incroyable. Et peut-être c'était aussi... Enfin, quand on est étranger aussi dans un pays, on se bat pour tout. Et peut-être c'est aussi un peu ça, c'est un mindset un peu d'entrepreneur, de hacker.
Ouais.
Et je sais pas, c'est peut-être un peu l'ensemble de ces éléments-là.
Finalement, en fait, tu te projetais pas beaucoup à mon âge. Tu te disais, voilà, j'ai ça, j'aime faire ça, donc tu faisais certaines choses sans vraiment te dire, voilà, j'ai envie d'arriver là et il faut que je fasse tout ça pour y arriver.
Non, à 21 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, en toute honnêteté. Je pense que quand j'ai commencé à travailler chez Business France, je me disais, je vais aller en France, je veux faire un truc dans le business développement ou développement économique, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, j'imaginais même pas à l'époque. Donc non, tout s'est fait naturellement.
Okay. Est-ce que tu as rencontré des obstacles sur le chemin de tes études ?
Beaucoup. Quand je suis arrivée en France pour faire le master à Sciences Po, je ne comprenais pas la moitié de ce qui se passait en cours. Mon niveau de français, je me rappelle le premier jour en cours de finance, il a montré un graphique et j'ai rien compris. Il a expliqué plein de choses, des courbes et des choses comme ça, et j'ai pas compris la moitié des mots qu'il a utilisés. Je me rappelle aussi que la relation entre prof et étudiant, c'était quelque chose qui m'a vraiment frappée en France, parce qu'aux États-Unis, on est l'autre extrême. tout est bien, good job, tout ça. Et en France, c'était... si t'as un 10 sur 20, voilà, il faut être vraiment très fier. Donc, je comprenais pas trop. Et je pense aussi, dans le milieu du travail, au début, c'était compliqué aussi, parce que j'avais pas forcément le niveau de français pour, je pense, donner confiance aux gens avec qui je parlais. Je voulais faire quelque chose dans la communication. Quand j'ai commencé chez TechCrunch, je me rappelle que, en fait, ils ont annoncé que j'allais reprendre le site et j'ai dit, en fait, non, ils n'ont rien compris, je suis incapable de le faire. Et j'avais des personnes autour de moi qui m'ont soutenue et qui m'ont dit, bah, on va faire ça ensemble, t'inquiète. Et j'ai eu de la chance. Mais oui, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles.
D'accord. Donc, finalement, tu as réussi à peu près tous les surmonter, étant donné que tu as fini ton master à Sciences Po et, et que tout s'est bien passé après. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, je peux rencontrer les mêmes difficultés que celles que tu as rencontrées
Je ne suis pas sûre que tu vas avoir les mêmes difficultés que moi, parce que, si j'ai bien compris, toi, tu es française et tu as grandi ici. Donc, toutes les difficultés administratives que moi j'ai eues, je pense que tu ne vas pas en avoir. Mais je pense que les démarches pour trouver un emploi sont à peu près les mêmes. Après, si moi j'ai bien compris, toi, tu as un profil tech. Ça, c'est un profil en or et c'est un profil que moi, je n'avais pas. Et aujourd'hui, je pense, contrairement à il y a 10 ans, tout le monde est conscient qu'il faut beaucoup plus de femmes dans le milieu. Tout le monde cherche des femmes, tout le monde veut recruter des femmes, des CTO femmes, des développeuses, enfin vraiment tout profil. Donc, je pense que tu risques de ne pas avoir beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Et moi, je me rappelle aussi que quand je venais de commencer à... Quand j'étais chez Business France, il y a peut-être maintenant 10 ans, à San Francisco, on était même choqués de voir des femmes sur des conférences. Donc moi, je me rappelle, j'avais fait une conférence sur l'open source à l'époque. Et en arrivant, on m'a dit, non, vous vous êtes trompé d'endroit. le cinéma, il est en face. Et je suis là, genre, non, moi, j'ai viens pour la conférence. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui. Tout le monde est conscient du problème. Tout le monde fait plein d'initiatives pour soutenir des femmes. Donc franchement, je pense que tu as de la chance.
Justement là-dessus, tu as fait pas mal de stages, décroché des jobs qui étaient aussi plutôt bons. Est-ce que tu t'es appuyé sur ton réseau pour trouver tout ça ? Comment est-ce que tu t'es débrouillé pour décrocher de bons stages, trouver ton premier job ?
C'est que le réseau. C'est que le réseau. Je pense que quand je venais de commencer, je ne savais pas du tout comment ça marchait à l'époque. Mes parents, ils sont étrangers aux États-Unis. Donc voilà, eux aussi, ils avaient des pratiques qui étaient peut-être datées ou ça se faisait que dans les cercles entre Iraniens. Donc moi, en fait, je n'avais vraiment pas beaucoup de monde pour me guider. Et comme je voulais aussi faire quelque chose en lien avec la France, mes parents, ils étaient là, mais nous, on ne comprend rien, on ne sait pas quoi te dire. Donc moi, je me rappelle que j'ai envoyé peut-être pour mon tout premier job, qui était pour le consulat belge à Los Angeles, j'ai envoyé peut-être un millier de mails pour avoir le job. J'ai contacté mais toute organisation que je voyais en français, qui avait un lien avec la France, qui parlait français. Du coup, je suis arrivée chez les Belges. Mais voilà, donc c'était vraiment, je savais pas comment ça marchait. Et pour les jobs par la suite, j'ai compris qu'en fait, il faut vraiment cibler, il faut contacter quelqu'un, il faut demander autour de soi. On peut pas juste envoyer des milliers et des milliers de mails parce que le taux de conversion est très, très bas.
Moi, par exemple, j'ai 3 stages à effectuer sur mes 5 ans d'études. Est-ce que j'en ai déjà fait un l'année dernière dans une grande entreprise et donc ça s'est très bien passé, j'ai vraiment découvert beaucoup beaucoup de choses et voilà, j'étais très satisfaite en fait en sortant de ce stage, mais il y avait un petit bémol en fait, quelque chose qui m'avait vraiment pas attirée, c'est le fait que je trouvais que le rythme était quand même très lent. J'étais dans une boîte qui était à la pointe de l'innovation dans son domaine. Mais je ressentais quand même qu'il y avait vraiment une grande lenteur dans les démarches. Et quand je discutais avec mes collègues qui avaient fait des stages dans des startups, ils me disaient « Ah non, pas du tout. Moi, c'était méthode agile. On faisait des stand-up tous les matins, etc. » Alors, j'étais là « Bon, donc, il me reste 2 stages. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour savoir quoi cibler pour justement orienter en fait, le domaine dans lequel je pourrais apprécier travailler ?»
Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense même si je connais pas la boîte pour laquelle tu as travaillé, mais j'ai l'impression que c'était peut-être une boîte un peu plus grande.
Oui, très grande.
C'était un grand groupe ?
Un grand groupe et c'est une boîte ancienne.
D'accord. Bah, même si peut-être l'expérience était moins marrante que ce que tes amis ont décrit pour les startups, je pense que ça, c'est une expérience vraiment super importante et nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les startups sans avoir beaucoup d'expérience. Et ils ne savent pas trop, en fait, quelles sont les pratiques, comment les autres types d'entreprises travaillent. En fait, ils ne voient que la culture startup. Et je pense que c'est vraiment super de pouvoir comparer. Moi, j'avais passé 3 ans chez Microsoft et je me rappelle, en arrivant chez Microsoft, j'étais entre guillemets choquée par la culture parce que pareil, il y avait plein de process, plein de réunions, tout était très organisé. On ne pouvait rien faire en mode freestyle, envoyer un mail à qui en veut. Et en fait, je comprenais mais vraiment pas. Ça me frustrait énormément. Mais en sortant de chez Microsoft, j'ai dit, bah, en fait, tu te professionnalises en fait. tu t'apprends une culture qui est quand même importante. Et quand toi, tu crées une boîte, tu peux structurer beaucoup mieux. Tu as déjà une base de process, de choses qui existent que tu peux aussi appliquer ou non à ta boîte. Donc, je pense que quand même, c'est une expérience très importante. Après, je pense aussi, si tu as envie de vivre un peu l'expérience startup, c'est le moment de le faire. Donc, tu as 2 différents types de startup. Tu as la startup qui vient juste de commencer, un peu ce que je racontais avec Station App, tu as la phase pré-lancement, après-lancement. Mm-hmm. Donc, tu as la petite boîte avec quelques personnes où vraiment, tu as tout à créer. Je pense que ça, c'est une super expérience à voir. Et tu as aussi la boîte un peu plus structurée de startup qui est déjà financée, commence à décoller, où les procédures commencent à se mettre en place. Et je pense que ça, c'est aussi super intéressant à avoir comme expérience.
En fait, je ressens en tout cas que j'ai besoin de dynamisme, de quelque chose où voilà, on fait des projets, on discute, on n'agit pas chacun dans notre coin en attendant voilà, que chaque étape soit validée. Et je me dis, mais il y a aussi les PME qui doivent être dans ce cas-là, je ne sais pas du tout. Et je me dis aussi, et pourquoi pas le consulting, parce que c'est quelque chose aussi qui a la réputation d'être plus dynamique. Donc voilà, où faire mes stages, comment un peu orienter ma carrière pour rester dans quelque chose de dynamique sans pour autant rater des étapes.
C'est une très bonne question. Je pense que le consulting, c'est quelque chose que tu peux toujours faire à n'importe quel moment dans ta vie si tu as envie. Vu ton profil, moi je trouve ça dommage. Je pense que pour la communauté des startups, pour ce que toi tu pourrais faire, enfin, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je pense franchement, tu as un potentiel pour être CTO d'une boîte. Si tu commences par faire du consulting, ça va prendre un peu plus de temps, alors que tu pourrais commencer déjà à travailler dans une boîte et monter très, très rapidement. Par exemple, à Station F, moi, j'ai recruté quelqu'un qui avait fait 42 à l'âge de 19 ans. Et aujourd'hui, c'est le lead dev chez nous. Il a 21 ans. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour les gens avec ton profil.
En fait, moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est vrai que le consulting, c'est quand même une démarche qui est complètement différente. C'est un parcours qui n'est vraiment, qui est vraiment différent de celui qu'on pourrait vivre dans des grandes entreprises ou même petites. Et c'est vrai qu'effectivement, ça ralentirait un petit peu la croissance que je pourrais avoir si je postulais directement dans une entreprise. Donc, c'est intéressant d'entendre ça. Après, voilà, je pense que ce serait un choix. Si je décide de me lancer dans du consulting, certes, ça ralentira, mais ça n'empêchera pas non plus le fait que je revienne après dans une entreprise. Donc, Donc, je pense que tout ça se peaufinera avec mes projets, mes expériences, les expériences que j'aurai dans les 2 ans à suivre.
Tu as raison. Et je ne veux pas être anti-consulting. Et je pense aussi, pour les raisons économiques, consulting, ça peut être très intéressant. Parfois, les horaires sont très, très difficiles. On a beaucoup moins de flexibilité que dans l'univers des startups. Donc, c'est aussi un choix culturel. Mais comme tu dis, oui, tu peux faire avant, après, ça ne change rien.
Et ça joue d'avoir un profil international pour être embauché aujourd'hui ?
Que dans le domaine tech. Donc, comme je disais, quand j'ai commencé, je voulais vraiment faire n'importe quoi en France. C'était juste objectif France. Je pense que si j'avais tenté ma chance dans les banques ou dans un autre domaine, ça n'aurait pas vraiment marché. Dans le milieu tech, tout le monde regarde vers l'étranger, vers les États-Unis, les US et... crédible, je sais pas pourquoi. Donc j'avais une crédibilité, même si voilà, mon profil n'était pas forcément, j'avais pas des années d'expérience dans les startups quand je suis arrivée ici. Mais je pense que le fait d'avoir un lien, un réseau étranger, ça a beaucoup beaucoup aidé.
Ok. Et le fait aussi de parler plusieurs langues, j'imagine que ça.
Aujourd'hui, je pense que ça aidera quel que soit ton métier.
Ce que tu dis, ça résonne en moi parce qu'en fait, mes parents sont libanais, ils sont arrivés il y a 27 ans en France. Et en fait, eux, je pense, ont eu absolument en fait, la même démarche que toi. Et en fait, leur objectif, c'était aussi de permettre à leurs enfants, justement, de ne pas avoir tous ces problèmes de démarche administrative. Mais c'est vrai que ce côté vouloir être français et tout ça, je veux dire, ça fait sens parce que je sais que mes parents, c'était exactement la même chose. Ils avaient le choix entre le Canada et la France et ils se sont lancés en France et je pense qu'ils ne regrettent pas du tout. Donc voilà,
c'est super.
Pour le dire. Ouais.
Super. Donc ça veut dire aussi que toi, tu parles plusieurs langues.
Oui, je parle libanais. C'était pas facile parce que j'ai toujours été en France. Donc mes parents me forçaient un peu à la maison à parler libanais avec eux pour que je sache le faire. Mais maintenant, je le parle couramment. Je suis très, très contente. Et puis voilà, ça facilite après l'apprentissage d'autres langues. Donc je parle très bien anglais aussi. Donc voilà.
Bah super, ça fait c'est la différence en CV aussi.
Peut-être, peut-être bien. Alors, au sujet de la négociation salariale, c'est vrai que ça me paraît encore très lointain parce que j'ai l'impression d'être un peu voilà, sur le tremplin de ma carrière et tout ce qui est, toutes les expériences qui pourraient être enrichissantes, en fait, je les prendrais, peu importe l'aspect financier, mais c'est sûr qu'au moment où je vais commencer à travailler, je pense que ce sera super important. Là, durant les stages, bon, on prend un peu ce qu'on a, on essaie voilà, de faire comme ça. Après,
je te donne quelques tips.
Ouais,
donc, je pense en fait, quand moi j'ai commencé, j'étais pas du tout renseignée sur les salaires. Je pense que c'est bien de garder un esprit ouvert parce que franchement, si tu as une bonne opportunité de travailler pour, je sais pas, une start-up où tu trouves l'idée géniale, mais ils n'ont pas encore levé de l'argent, ils n'ont pas les moyens, tu peux négocier un deal qui peut-être au début moins favorable pour toi, mais dans le temps peut devenir. Mais je pense que ça vaut le coup d'être un peu renseigné sur des salaires, qu'est-ce qui se pratique, qu'est-ce qui se fait autour de toi. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui où tu peux trouver des salaires pour tel type de job, dans tel type d'entreprise. Donc, fais des comparaisons. Après, il faut toujours avoir plusieurs discussions en parallèle. Même si tu as un job qui ne t'intéresse pas, c'est bien de l'avoir dans la poche. Comme ça, tu peux toujours négocier. Tu peux dire, bah, en fait, j'ai tel job qui me propose aussi quelque chose. Et ça permet d'avoir une discussion où toi, tu es un peu plus sereine et tu sais que voilà, même si ça ne se fait pas, j'ai toujours un job que je pourrais avoir. Donc, je te conseille plutôt de faire plusieurs discussions, d'essayer d'obtenir plusieurs offres et te donner le temps de réfléchir. Aussi, parfois, on va te mettre dans des packages, c'est formaté, c'est comme ça, on est une grande entreprise, voilà, il y a tel choix. Sinon, tu peux pas rentrer dans la boîte. Tu peux toujours, toujours, toujours négocier plus. Et ce qu'il faut garder en tête, tu peux toujours, c'est plus facile de négocier ton salaire avant d'arriver dans la boîte que de négocier ton salaire une fois dans la boîte. Après, il y a des systèmes, des procédures pour les augmentations beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles pour négocier une augmentation que de négocier ton salaire de départ. Donc, commence par un salaire qui est bien et où tu es confortable.
OK. Et quand on est en start-up, le salaire, c'est la même chose ou
Ça dépend des start-up. Si ce n'est pas une start-up financée, parfois, c'est plus difficile. Tu peux potentiellement négocier plus d'equity. Mais sinon, des startups qui sont plus financées aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à avoir des salaires qui sont très compétitifs. Ouais.
Ok. Non, c'est vrai, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes en fait se poser la question, ou alors me dire, je pense qu'une fois on m'a dit, si tu vas faire un stage dans une start-up, tu seras jamais rémunéré, alors qu'en France, voilà, on est rémunéré à partir de 2 mois de stage, il me semble que c'est obligatoire. Donc, et on m'avait dit, ouais, si tu vas le faire dans une start-up, tu seras pas rémunéré. Donc bon, il faut voir si tu peux te le permettre.
C'est des clichés sur des start-up. En fait, il y a d'autres choses à part le salaire qui compte évidemment pour sa carrière. Il y a aussi le titre, par exemple, ou ton évolution. Donc, par exemple, je pense dans un grand groupe, tu peux avoir des années, tu peux avoir des procédures, il faut attendre que ton boss part pour avoir son job, ce genre de choses. Et dans les startups, comme c'est des boîtes en hyper-croissance, bah, en fait, peut-être demain, il y a une nouvelle partie de la boîte qui se crée, tu peux aller manager direct. Enfin, c'est des choses qui peuvent aller très, très rapidement. Et tu peux même commencer avec un titre qui n'est pas un titre junior, parce que l'équipe est toute petite, donc ils ont besoin d'avoir déjà des gens un peu VP ou manager. Donc, tu peux commencer, en fait, avec un très bon titre, un salaire qui est quand même un salaire. Donc, c'est peut-être pas le même salaire que tu peux avoir en consulting ou dans des grands groupes. Et après, une fois que la boîte s'est fait financer, tu peux aussi demander des salaires en plus ou des évolutions à ce moment-là.
Donc, tout de suite, en fait, une start-up, si ça marche, c'est super enrichissant au niveau de la responsabilité qu'on nous donne, parce que si ça grossit tout de suite, si on est déjà dans l'équipe, on peut prétendre à des plus gros postes. Donc,
oui.
En ça, c'est super.
Et pour des start-up qui marchent, être parmi des premiers salariés, ça peut être super, super enrichissant. Je pense que la personne qui... je connais la fille qui est première salariée de BlaBlaCar. Bah, elle a une carrière incroyable. Elle a fait plein de choses différentes. Elle a eu beaucoup de visibilité aussi. Enfin, je pense que c'est une expérience incroyable. Et puis, elle était parmi les premiers salariés. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui aussi, son salaire est assez intéressant. Donc, voilà, il y a tout ça qui va ensemble.
Oui. Et vous envoyez souvent des femmes comme ça à Station F qui ont justement, enfin, qui en tout cas montrent déjà ce profil de carrière, des startups qui grossissent à une rapidité phénoménale.
Il commence à avoir de plus en plus de boîtes dans ce cas en France. À Station 9, on est sur des boîtes vraiment très early stage. Donc, c'est souvent moins de 10-15 salariés. Mais en effet, on commence à avoir des boîtes avec une croissance assez rapide. Aujourd'hui, malheureusement, quand une boîte atteint à peu près 15 salariés, elle ne peut plus rester à Station F. Ce n'est pas vraiment un espace adapté pour des boîtes plus matures. Et du coup, on a beaucoup de boîtes qui vont rester 6 mois, 1 an et devoir partir parce qu'elles grossissent trop rapidement.
Quels sont les risques alors à travailler en start-up ?
Bah, les risques, je pense, c'est plutôt de bosser pour une boîte qui ne marche pas. Ça, c'est un risque, mais aussi, je pense que c'est quand même une expérience et tu vas quand même apprendre quelque chose et quelque chose d'important. Donc, c'est pas comme si tu devrais effacer quelque chose de ton CV. Mais le risque, c'est, tu risques, si tu commences avec une boîte qui est trop jeune ou le risque est plus élevé parce que la boîte n'est pas encore financée, n'est pas encore structurée, tu peux avoir quelque chose sur ton CV qui ne marche pas dans 3-4 ans. Moi, j'ai bossé pour une boîte dans ce cas-là. J'ai bossé pour une boîte à Londres pendant 9 mois, qui était un concurrent de Jolibox ou Birchbox aujourd'hui en France, qui s'appelait Carmine. La boîte était financée par Axel Partner, c'était fondé par un entrepreneur qui avait déjà monté d'autres boîtes qui ont bien marché. Mais en fait, on a cramé l'argent au bout de 9 mois, on avait plus d'argent et nos investisseurs ne voulaient plus nous financer. Et j'ai trouvé l'expérience était quand même intéressante parce que ça me permettait de valider aussi, j'avais vu quelques décisions en interne avec lesquelles je me disais, bah, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça ou j'ai pas trop compris pourquoi on faisait ceci, cela. Et en fait, ça te permet aussi de valider un peu tes notions et tes intuitions. Donc, je pense que c'est aussi une expérience qui peut être enrichissante, mais c'est aussi dommage d'avoir ça sur un CV. Tu dois dire, bah, en fait, c'est une boîte qui n'existe pas, malheureusement.
Et ça décrédibilise, du coup, auprès des
prochains recruteurs ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça pourrait, et peut-être aussi dans le passé, on avait un peu plus de... comment je peux dire ça ? Enfin, on regardait l'échec d'une autre manière. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on adore l'échec et on trouve ça génial, mais je pense que c'est toléré et les gens comprennent aussi que ça, c'est aussi une expérience. Donc, voilà.
Ok. Non, c'est vrai que, bah, en fait, typiquement, moi, j'ai commencé après mon lycée par une première année commune aux études de santé, donc la PACES, c'est ce qui nous permet de rentrer en médecine. Et j'ai fait un an et demi, mais j'ai échoué. Et en fait, de cette expérience, j'en suis ressortie vraiment grandie. Et de faire après des études d'ingénieur et avec un double diplôme d'école de commerce, c'était vraiment un choix. Et aujourd'hui, je pense que les professeurs de l'école pourrait vraiment appuyer ce que je suis en train de dire, parce que les étudiants qui ont rejoint du coup le programme alors qu'ils ont subi une réorientation sont beaucoup plus peut-être matures en fait sur le fait qu'ils sachent ce qu'ils ont envie de faire, et donc finalement ils ont tiré du profit d'une expérience qui a échoué. Donc je pense que c'est intéressant, et finalement du coup travailler dans une start-up, qu'elle échoue ou qu'elle réussisse, ça doit être enrichissant de toute façon.
Oui, et puis on va toujours pouvoir faire quelque chose par la suite. Mmh. Donc moi, j'ai aussi quelqu'un dans mon équipe aujourd'hui qui avait monté une start-up avant. Moi, je voulais un ancien entrepreneur. Que ça marche ou ça marche pas, ça m'intéressait pas de savoir. Je voulais juste quelqu'un avec cette expérience. Donc je pense qu'il y a aussi des opportunités qui existent pour ce type de personnes. Si tu travailles dans une boîte qui ne marche pas, il y a toujours des choses que tu peux faire avec ça par la suite.
Super intéressant. Tu travailles pour Xavier Niel. Est-ce que parfois ça te pose des difficultés étant donné, pour t'imposer en fait vis-à-vis de lui?
Moi, j'imaginais que travailler pour un milliardaire allait être vraiment compliqué. Mais en fait, travailler avec Xavier, c'est assez facile. C'est quelqu'un qui nous fait beaucoup confiance sur ce projet. Et il travaille beaucoup par mail. Donc, on le voit quand il vient à la Station F pour faire des visites ou faire des événements, des rendez-vous. Mais quand il faut travailler, on fait tout par mail et il nous répond très rapidement. Donc, c'est une façon de travailler qui me convient parce qu'il est extrêmement efficace. Après, je pense qu'au début, je ne me sentais pas très crédible pour prendre des grosses décisions. Donc, je posais toujours la question à Xavier et j'attendais qu'il me réponde. Mais en fait, il me disait toujours, c'est up to you. C'est sa façon de dire, prends la décision, je te fais confiance. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, nous, on a appris à prendre des décisions aussi très, très importantes. Mais je pense que parfois, Xavier, il va arriver avec une idée, avec quelque chose qui le tient à cœur. Et c'est son projet à la base. Et moi, je reconnais que c'est aussi son projet. Et je ne vais pas forcer mon opinion. C'est aussi quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc, je lui fais confiance aussi. Donc, quand il me dit, quand on n'est pas forcément en phase sur une décision, si je n'ai pas réussi à le convaincre, je respecte aussi la raison pour laquelle il va me dire non, il faut faire comme ceci, cela. Et voilà, je vais faire comme il demande de faire. Après, je pense que ce que j'ai appris depuis le début, c'est que parfois, on ne peut pas avoir le même avis. C'est pas forcément que son avis est le bon. Donc, moi, je peux aussi dire, en fait, non, vraiment, je crois à ce que je te dis. Et si encore il refuse, au moins, j'aurais exprimé mes idées. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et ça me semble marcher très bien.
Ça a l'air assez sain comme mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même la confiance qui règne. Et vous acceptez tous les deux que lui ait de l'expérience sur le projet et que... Et que toi, en fait, tu sois à la tête de tout ça et que tu sois aussi dans le plat. Donc, finalement, tes décisions sont aussi importantes. Donc, ça doit être agréable de travailler dans cet environnement.
C'est très agréable de travailler dans tout ça. Et puis, à Station F, je pense qu'il y a tellement de choses à créer, à faire. Et en fait, il nous laisse vraiment proposer nos idées et faire ce qu'on a envie de faire avec ce projet. Et de temps en temps, il va dire, je propose de faire ceci. Ou quand moi, je venais d'arriver dans le projet, il m'a dit tout simplement, tu vois le bâtiment, on aimerait bien y mettre Mean Startup. Dis-moi comment on va faire. Et c'était un peu toutes les infos que j'avais sur ce qu'il voulait faire. Et en fait, moi, je me suis posé des questions pendant des semaines. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il m'a dit « comment on va faire ?» je me suis vraiment creusé la tête pour savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Mais en fait, non, c'est juste, en gros, il veut faire ça et il te laisse décider par la suite.
Et comment ça se passe du coup aujourd'hui pour avoir 1000 startups du
pour
coup,
avoir 1000 startups. En fait, ce que j'ai fait, c'est je me disais, en fait, je n'avais pas forcément trouvé la réponse chez Xavier. J'avais peut-être trouvé la réponse dans l'écosystème. Donc, quand je viens d'arriver, j'étais toute seule. Pendant plusieurs mois, je suis allée rencontrer des startups, des investisseurs, des journalistes, des gens de l'écosystème, des grands groupes. Et j'ai posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui manque? Quelles sont les ressources que vous aimeriez bien avoir? Et en fait, quand j'ai commencé à entendre des choses qui se répétaient, c'est ça où je me disais, OK, il y a un vrai besoin parce qu'il y a plusieurs boîtes qui me disent la même chose. J'ai tout entendu, des spas pour start-up, une navette qui nous emmène de Gare du Nord jusqu'à Station F, vraiment tout. Mais j'ai entendu aussi, ça serait génial d'avoir des services publics sur place ou d'avoir une communauté d'investisseurs qui vient, qui est là présent. Et donc, quand on a entendu ce genre de choses plusieurs fois, on a dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire.
Voilà. Donc finalement, en fait, la Station F s'est construite par la récolte de toutes les demandes en fait qu'il y avait autour, et c'était pas simplement une idée.
Non, exactement. Okay. Quand t'as un projet qui est si grand, Et qui va vraiment être un peu le fédérateur de plein d'acteurs différents. Je pense qu'on est obligé d'aller demander les avis des différents acteurs de l'écosystème. Ouais.
Là, c'est intéressant. Je pensais pas. Je pensais que justement, il y avait en fait, il y avait toute une idée qui était derrière tout ça, parce que il me semble que il y a beaucoup d'espaces partagés, c'est ça.
Ouais.
Et il faut en réserver un, et en fait, toutes les boîtes peuvent réserver le même. Juste, voilà, il faut s'arranger. Voilà, et je pensais que tout ça, en fait, c'était né un peu d'une idée comme ça, mais finalement, il devait y avoir beaucoup de demandes, en fait, pour créer ce type d'espace.
Le fait d'avoir des espaces mutualisés et partagés, ça s'était un peu défini par le bâtiment. Parce que le bâtiment, on savait déjà qu'on allait avoir des grands open space, qu'on allait héberger 1000 boîtes. 1000 boîtes, si tu as, je ne sais pas, je crois qu'on a 58 salles de réunion ou quelque chose comme ça, il faut partager des différents espaces. Donc, il fallait mettre en place tous ces systèmes. Ça, c'était une évidence. Après, tous les services et le mode de fonctionnement avec les différents programmes, tout ça, on avait besoin de définir. Mmh. Et après, il fallait aussi trouver un modèle qui était un peu... qui permettait de nous être à l'équilibre sur le business plan. Donc, voilà, il y avait tout ça à prendre en compte. Et donc, on parlait avec des différents acteurs et on a trouvé notre modèle.
OK. Ah mais c'est drôle en fait, parce que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au type de problématique des ingénieurs, c'est-à-dire on nous donne voilà un espace, oui. Qu'est-ce qu'on en fait, et puis tes études en fait, avec ces études là je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver là, c'est super intéressant comme quoi en fait t'as eu des opportunités, tu les as saisies, mais elles étaient pas forcément très liées à ce que tu avais fait avant.
Heureusement, sinon je serais peut-être prof.
Ouais, non, mais...
Le français est pas très bien.
En fait, je trouve que ton discours, il est rassurant, parce que moi aujourd'hui, je suis dans une école d'ingénieur. Je fais un double diplôme avec une école de commerce parce que je n'ai pas spécialement envie de rester dans la technique pure. Mais je n'ai aucune idée de là où je vais finir, de ce que je vais faire de ma vie, j'en ai vraiment aucune idée. Donc, mon seul objectif en ce moment, c'est de multiplier les expériences. Donc, voilà, quand je me suis lancée dans ce TEDx, ça m'a pris 2 ans parce qu'il y avait plein de choses à faire, mais finalement, c'était une super expérience. J'ai eu aussi l'occasion de faire des missions humanitaires. J'essaie de faire plein de choses. J'essaie de trouver un job à côté. L'année prochaine, je pars en Australie pendant 6 mois. Donc, voilà, j'essaie de faire plein de choses, mais encore une fois, je ne sais pas du tout où ça va mener. Et quand on voit ton parcours, on se dit voilà, il faut faire confiance aussi un peu en la vie, saisir les opportunités, et puis il y a de belles choses qui nous arriveront. Donc,
c'est super tout ce que tu as dit là. Je m'inquiète pas du tout pour toi. Et je pense que ce qu'il faut faire à ce stade, c'est vraiment ouvrir toutes les portes possibles, et petit à petit tu vas trouver là où tu as envie d'aller.
j'espère.
Ok, bon, si toi, tu as fini tes questions, j'ai accumulé plein de questions depuis tout à l'heure que j'aimerais bien te poser aussi. Donc, en fait, moi, je n'ai pas fait des études en France à part le master. Et nous, on se disait tout à l'heure que, par exemple, pour les femmes qui veulent étudier la tech, les sujets ne sont pas forcément présentés d'une façon qui donne envie. Comment toi, tu as décidé d'apprendre de faire tes études en informatique déjà? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que peut-être les sujets peuvent être retravaillés pour donner plus envie?
Alors, c'est vrai qu'il y a un côté... À première vue, on pourrait se dire l'informatique, c'est vraiment pas quelque chose de très attirant. Alors, on se dit...
Et pourquoi? Pourquoi on pourrait dire ça?
Parce qu'on a l'image... Enfin, en tout cas, je pense que chez certains, ça doit être le cas. Moi, aujourd'hui, plus tellement, mais on a un peu l'image de la personne derrière son ordinateur qui ne fait que ça, qui apprend à coder des choses qui n'ont vraiment aucun sens quand on ne connaît rien au code. Et on se dit, c'est un peu barbare, ça donne pas très envie. Une école d'ingénieur, en tout cas, celle dans laquelle je suis, c'est un endroit où on va pouvoir découvrir plein de choses. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, il y a des choses que j'aimerais faire. Comment est-ce que je vais faire pour m'y retrouver? Et en fait, l'école m'a offert plein de possibilités en me disant, si tu as des projets, on va t'accompagner pour les faire. On va même t'en proposer. Il y a des professeurs qui sont disponibles. Et même quand on est et puis après, dans mon école, il y a d'autres spécificités qui sont intéressantes. Par exemple, on a des cours de soft skills. Par exemple, comment apprendre à gérer une équipe, comment faire ce genre de choses. Et on se dit, le métier d'ingénieur, il n'est plus tel qu'il était avant. En tout cas, il peut le rester pour certains. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rester dans vraiment la technique. Mais moi, aujourd'hui, j'ai intégré... Enfin, il y a 2 ans, j'ai intégré une école d'ingénieur. Pas parce qu'il y avait ce côté très technique, mais justement parce que ça allait pouvoir m'offrir plein de possibilités et que j'allais avoir une formation qui, finalement, allait être très complète. Que j'allais faire des projets. J'adore faire des projets. Je fais ça depuis que je suis petite. Ma mère me dit toujours « T'as tout le temps des projets, Léa. » Oui. Et voilà, quand on arrive dans une école où on fait plein de projets, où on nous apprend à interagir avec les autres, où en même temps, on a des cours sur la technique parce qu'on aime ça. Parce que j'étais pas du tout réticente à l'idée de refaire des maths et de la physique, parce que finalement, je me débrouillais assez bien en sciences. Et on se dit, voilà, on va apprendre plein de choses. Je savais pas du tout, et je sais toujours pas où ça va mener, mais je me disais, voilà, cette formation, elle peut être très complète. Et puis, ouais, voilà.
Mais c'est marrant parce que tu m'as dit que toi aussi, tu avais un peu les clichés en tête.
Ouais.
Et après, tu as quand même fait le choix de le faire. Qu'est-ce qui t'a emmené à le faire? Enfin, j'ai du mal à voir...
Alors, en plus, enfin, mon père est ingénieur, mon frère fait une école d'ingénieur. Et toute ma vie, je me disais, mais alors jamais je vais faire un... Mais vraiment, je me disais, mais c'est pas possible.
Bah, du coup,
jamais je finirai là-dedans, je vais faire médecine, ce sera très bien. Et en fait, en me penchant, mais vraiment en regardant ce qu'on proposait dans une école d'ingénieur, je me suis dit, ah mais en fait, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas? Peut-être qu'on en a... Peut-être que c'est trop connoté, peut-être qu'on la présente pas assez bien.
Qu'est-ce qui t'a attiré? C'était quoi précisément? T'as vu un sujet qui t'a plu ou...
Bah, moi, en fait, c'était surtout le double diplôme qui
D'accord.
m'attirait, en tout
okay.
cas.
Okay.
C'était le fait de me dire, OK, je vais avoir cette formation technique, je vais la garder. Moi, en fait, mon idée, en arrivant dans cette école, c'était de me dire, OK, moi, j'ai envie de travailler donc dans des équipes, j'ai envie de mener des projets, j'aimerais bien être dans le management, un petit peu. Sauf que, en ayant beaucoup discuté voilà, avec des amis de mes parents, on m'avait beaucoup dit que le problème des managers, c'était... parfois qu'ils ne comprenaient pas assez le sujet en fait, des projets qu'ils avaient à mener et que quand ceci était technique, voilà, c'était très compliqué. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie d'apprendre des choses pendant mes études. J'ai envie voilà, de continuer à faire des maths, de m'ouvrir voilà, au big data. Je veux dire, les sujets qu'on a en école d'ingénieur, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité. Et j'avais envie de m'ouvrir à tout ça, mais en même temps, j'avais envie d'avoir cette formation pour me dire, voilà, peut-être que je serai chef de projet plus tard.
Super.
Et c'était vraiment ça, en fait, qui m'attirait. Je me disais, voilà, j'ai envie d'avoir une formation très complète. Du coup, je vais faire les deux et puis on verra là où ça me mènera. Mais en fait, l'idée de faire une école d'ingénieur, c'était vraiment pour me dire, j'ai envie d'apprendre des choses. J'ai envie de continuer d'apprendre des choses. J'ai envie... Voilà, c'était pas pour me dire j'ai envie de devenir la reine des maths. C'était pas non plus forcément pour faire de la recherche, alors qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de la recherche. Mais la voie d'ingénieur, elle offre beaucoup de possibilités. Donc je pense qu'il faut vraiment la voir comme ça.
Super, tu as parlé un peu des big data.
Ouais.
Je me suis demandé aussi, mais qu'est-ce qu'on apprend dans un cours de big data?
Bonne question. Je l'ai pas encore fait. En fait... On y va par étapes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, les cours que j'ai, c'est des cours de base de données. Mm. Donc, je vais apprendre comment gérer une base de données. Après, les big data, en fait, c'est justement toutes ces données qui sont... qui aujourd'hui, on a énormément de données, mais ce qu'on ne fait pas, c'est les traiter. Et en fait, en les traitant, ça pourrait apporter beaucoup de choses, en fait, à plein de domaines différents. Mais voilà, ça pourrait aider en marketing, ça pourrait aider, le gouvernement, ça pourrait aider la sécurité, enfin, plein de choses. Et donc, dans un cours de big data, je ne sais pas encore ce qu'on fait. Mais ce qui m'attire, en tout cas, dans ce domaine, c'est de me dire, voilà, il y a une problématique, il y a certaines choses à faire. Il y a des outils à connaître pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce milieu. Donc, je me dis, je vais me lancer là-dedans. À côté, il y avait une majeure finance qui ne m'intéressait pas du tout parce que, enfin, voilà, j'ai aucun... je sais pas, ça ne m'attire pas, la finance. La majeure mécanique qui ne m'attire pas non plus beaucoup. Et sinon, il y avait les nouvelles énergies avec... J'hésitais un petit peu avec cette majeure. Et sinon, il y a aussi une majeure entreprendre. Mais là, il faut avoir un projet et il faut vraiment croire en ce projet.
C'est bien cette école. Ouais. Je vais reprendre les études aussi, moi. Non, mais je trouve ça génial. Et juste pour partager, je pense que franchement, tu as fait des super choix d'études. On a reçu il y a une semaine à Station F, c'est le boss du centre d'entrepreneuriat de MIT qui nous disait que le sujet pour le futur, en ce moment, tout le monde parle des data. Tout le monde. Et toutes les boîtes sont en train de se rendre compte de la puissance des data. Donc, j'ai hâte pour ton cours de Big Data, pour toi. Et je pense aussi, peut-être, tu ne te rends même pas compte de quelles opportunités tu pourrais avoir dans le futur avec le profil que tu as et les études que tu es en train de faire. Donc, je ne sais pas si tu as déjà rêvé d'être CTO d'une boîte, mais franchement, je pense que ça peut être vraiment une piste à creuser pour toi parce que c'est... tu serais mais génial. Et je pense que tout le monde rêve merci. D'avoir une CTO femme qui comprend les sujets dont tu parles. Donc voilà, et ça peut inspirer aussi plein d'autres femmes par la suite. Deuxième question, troisième question que j'avais, c'était sur TEDx, parce que j'en ai jamais fait, enfin, en tant que speaker. C'est un format qui m'impressionne énormément. Je pense que c'est très difficile. Il faut vraiment avoir un... Je pense qu'il faut vraiment trouver le bon sujet. Et il ne faut pas juste parler de son day job et tout ce qu'on fait tous les jours. Il faut vraiment creuser pour un truc intime. Et je n'ai pas encore trouvé un sujet comme ça. Mais j'aimerais bien savoir, parce que tu as peut-être dû passer plein de speakers.
Oui.
Quels sont les sujets qui t'ont impacté ou qui t'ont touché le plus ?
Alors, s'il y avait une seule chose à laquelle je pensais à chaque fois que je rencontrais un potentiel speaker, c'était est-ce que le speaker incarne son sujet ? Parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir dans un TEDx. On a envie de voir quelqu'un qui va en fait représenter tout son sujet et qui va pouvoir nous emmener en fait dans son univers. Je pense qu'il faut déjà avoir envie de se battre pour quelque chose ou avoir envie voilà, de diffuser une idée. C'est la devise de TED. TED, c'est les idées qui méritent d'être partagées. Et ça peut être n'importe quoi, mais du moment qu'elle est bien incarnée et qu'elle est bien racontée, ça fait un super TED Talk.
Super. Et j'ai une toute dernière question. Aujourd'hui, on commence à parler des nouvelles plateformes qui sont utilisées par la nouvelle génération. Donc, ce n'est plus peut-être les Facebook et compagnie. Je voulais savoir quels sont les outils que toi, tu utilises. Tu as évoqué LinkedIn tout à l'heure, mais est-ce que tu utilises vraiment LinkedIn ? Tu utilises encore ton mail ou tu es plutôt sur d'autres applications
Alors, moi, j'utilise LinkedIn, c'est-à-dire que on nous dit aujourd'hui qu'un profil LinkedIn, c'est important. C'est-à-dire que on va regarder un profil LinkedIn comme un CV. J'avoue que le mien n'est pas parfait, je ne m'y suis pas encore beaucoup penchée, mais je regarde quand même les news sur LinkedIn. J'essaie d'ajouter voilà, les différentes personnes que je rencontre. Vraiment, j'utilise quand même ce réseau social. Après, donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui est réseau. Après, sur les réseaux entre nous, en tout cas, nous, à l'école, on nous a déjà poussé à utiliser Teams, qui est en fait un outil de Microsoft qui nous permet de créer en fait des groupes, donc des équipes, et de partager des fichiers avec eux ou d'avoir une conversation, etc. Donc, en tout cas, moi, je suis dans une école d'ingénieur qui est orientée numérique, donc j'en utilise des outils. J'en ai utilisé plein. J'essaie même de m'adapter... aux outils d'autres équipes. Mais vraiment, pour communiquer dans le monde professionnel, je dirais LinkedIn. Je vois pas vraiment autre chose. Après, nous, on utilise Messenger aussi toujours pour communiquer. Donc,
Marrant, il y a quand même une puissance Microsoft qui ouais. persiste. Ouais. Non, c'est intéressant. Je pose la question parce que je pense aussi que c'est un sujet où je me demande si c'est bien abordé pour la génération qui grandit avec les outils et qui grandit avec une visibilité sur les réseaux. Que nous, on n'avait pas. C'est super important de bien soigner ses profils en ligne, que ça soit LinkedIn ou que ça soit Facebook, parce que tout est visible et les recruteurs peuvent tout voir. Et je me rappelle qu'on avait même fait des petits cours quand j'étais chez Microsoft pour les gens en disant bah, même l'adresse mail, il ne faut pas, j'imagine que je ne t'apprends rien, mais il ne faut pas faire princesse27 pour un mail qu'on va mettre sur un CV, par exemple. Donc, je pense que voilà, c'est des choses. Je me demandais si c'était des sujets qu'on enseignait et qui étaient un peu...
Alors, je pense en tout cas que c'est plus enseigné. J'ai peut-être déjà eu ce genre de discussion, mais très brièvement, mais c'est peut-être quelque chose qui nous vient assez naturellement. C'est-à-dire que on arrive dans une école, déjà, on nous donne une adresse mail. Donc, moi, j'ai une adresse mail de l'école qui est très pro, mon prénom, mon nom, @l'école.fr. Et donc, ça, déjà, ça nous donne la possibilité d'avoir une adresse professionnelle. Donc, je pense qu'ils font la démarche comme ça. Après, je pense qu'on sait qu'on doit avoir une adresse professionnelle. On l'utilise... Enfin, moi, j'utilise beaucoup, je fonctionne aussi beaucoup par mail. Mais je pense que le problème, il va se poser de plus en plus, peut-être après moi, je le vois, parce que là, je suis chef Ten Scout pour des plus jeunes. Et je sais que, bizarrement, leur façon de discuter, c'est sur Snapchat. Alors que pour moi, mais c'est pas du tout un réseau social pour discuter, mais c'est vraiment, ils discutent là-dessus, ils s'envoient des messages là-dessus, alors tout disparaît, ils n'ont même plus besoin d'avoir leur message, mais tout le monde discute là-dessus, et ça c'est un truc que je comprends pas du tout, donc
je suis rassurée parce que moi non plus.
Ouais, non, mais... et donc pour les outils professionnels, on garde quand même l'adresse mail qui fonctionne bien. Après, il y a de plus en plus de spam sur les adresses mail, donc moi, j'essaie de beaucoup faire le tri. On en utilise plusieurs. Je ne sais pas si toi, tu en as plusieurs, mais moi, j'en ai plusieurs et je ne mets pas les mêmes choses sur les mêmes. Mais ouais, voilà.
Super.
Merci à toutes les deux. Ça m'a beaucoup intéressée d'entrer dans les coulisses de Station F. Merci aussi à toi, Roxane Varza, pour tes conseils. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas hésiter à créer sa boîte, même quand on est encore étudiant, ou à passer par un grand groupe avant de travailler dans une start-up.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toutes les deux. On espère que cet épisode vous aura plu, vous, auditeurs. Si c'est le cas, foncez sur iTunes, mettez 5 étoiles, car ça nous aidera à faire connaître le podcast.
On vous dit rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse.
Salut!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.